franceinter.fr.
Il y a donc de l'oxygène sur la comète Tchoury, on le sait depuis hier, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
L'air que nous respirons a été produit par des organismes unicellulaires microscopiques qui ont rejeté des petites quantités d'oxygène pendant des milliards d'années jusqu'à créer les niveaux d'oxygène actuels. C'est la façon la plus simple de repérer la vie n'importe où dans l'univers. Car il ne peut y avoir d'oxygène libre dans l'atmosphère que s'il y a de la vie.
Il y a de l'oxygène, mais pas de la vie encore hein, sur Tchoury. Mais cette bonne vieille méthode pour chasser des traces du vivant ailleurs sera peut-être bientôt à revoir, donc au vu de ces nouveaux résultats de la sonde Rosetta. Bonjour Philippe Godon et Olivier Moussis.
Bonjour.
Philippe Godon, vous êtes chef du projet Rosetta pour le CNES. Olivier Moussis, vous êtes professeur d'astrophysique à Aix-Marseille et co-auteur donc de cette publication parue hier dans la revue Nature. Alors justement, vous avez trouvé de l'oxygène, Olivier Moussis, sous forme moléculaire dans les poussières qui s'échappent de la comète Tchoury. C'est la première fois que cet élément est détecté sur une comète hein ?
Non, ce n'est pas la première fois. C'est, disons que l'oxygène a été atomique, a déjà été observé dans une comète. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est de l'oxygène moléculaire et qui s'échappe directement du noyau. Cela veut dire que l'oxygène était bien piégé en tant que tel dans le noyau de la comète. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est vraiment de l'oxygène qui était dans le noyau, non pas un produit de dissociation, c'est vraiment de l'oxygène pur qui était déjà sous cette forme dans le noyau de la comète, qui était emmêlé avec de la glace d'eau.
C'est une grande nouveauté, est-ce que c'est une mini-révolution dans la conception qu'on a des comètes justement aujourd'hui ou pas ?
Alors, une mini-révolution, il y a des petites révolutions toutes les semaines quasiment avec Rosetta, je pense que Phil va dire les choses que moi, mais je veux dire, c'est un élément supplémentaire qui rajoute de la complexité au système, c'est-à-dire qu'en gros, l'oxygène, comment sait-il qu'il soit présent alors que c'est un ultra-volatile, alors que d'autres molécules, comme par exemple le diazote, on a montré il y a quelques mois que cette molécule était très appauvri dans la comète, comment sait-il que l'oxygène soit abondant alors que l'azote ne soit peu présent ? Et c'est ce genre de paradoxe qu'il faut résoudre aujourd'hui, par exemple.
Philippe Godon, comment Rosetta a-t-il détecté cet oxygène ? Il a en quelque sorte reniflé la comète ?
Tout à fait. À bord de la sonde Rosetta, il y a 11 instruments scientifiques, dont un qui s'appelle Rosina, qui possède des spectromètres de masse. Donc avec un spectromètre de masse, on pèse, si vous voulez, les atomes et les molécules. Et donc, sous la forme, on a des raies. Et suivant la hauteur de la raie, on a aussi le nombre de molécules. Donc l'instrument Rosina a détecté la raie de l'oxygène moléculaire.
Les mesures ont été faites il y a 6 mois. Est-ce qu'on sait si ces dégagements continuent aujourd'hui ?
Bah, probablement, oui, tout à fait.
Olivier Moussis, pardon, allez-y.
Excusez-moi. Donc tant que ça dégage, tant que l'eau dégage, il doit y avoir l'oxygène qui dégage en même temps. On a noté que les deux molécules étaient très, très corrélées l'une avec l'autre. Ça veut dire que les taux de production de l'oxygène suivent ceux de l'eau. Donc effectivement, il doit y avoir toujours de l'oxygène qui dégage à l'heure actuelle de la comète.
Alors justement, on l'entendait dans le petit extrait documentaire tout à l'heure, quand on cherche de la vie dans l'univers, on cherche de l'oxygène. On a de l'oxygène sur la comète, mais pas de vie. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de lier les deux recherches ?
Je pense pas. En fait, la concentration là dont on parle, Olivier me confirmera, mais on est peut-être de l'ordre de 2% de la composition de la comète, donc c'est faible. Sur une planète comme la Terre, où l'oxygène est a pour origine la photosynthèse, vous avez 21% de gaz d'oxygène.
Ouais.
Donc, si on détecte, c'est vrai, très peu d'oxygène, on aura un doute, mais si on détecte sur une exoplanète une concentration forte d'oxygène, à ce moment-là, ça sera un fort indice de vie sur cette planète.
Olivier Moussis, vous êtes d'accord ?
Je vais dans le sens de Philippe, mais à ceci, j'ajouterais que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une seule molécule comme marqueur. Je pense qu'il y a tout un ensemble de molécules qu'il faut considérer dans leur intégralité pour se faire une opinion. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la clé de ce genre de questions, concernant ce genre de questions. Quels sont les signes de la vie sur une autre planète vue à distance ? Je pense que la question est toujours ouverte. Hein.
Alors justement, Philippe Godon, est-ce qu'on sait d'où vient cet oxygène et est-ce qu'on a pu le dater aussi ?
L'origine, comme l'a dit Olivier, date d'avant la formation du système solaire, oui. Et donc d'avant la formation de la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc ça date d'il y a 4,6 milliards d'années, et il faut chercher cet oxygène dans l'énorme nuage de gaz moléculaire qui se trouvait là, à l'origine de la formation du système solaire. Et c'est là où il y a un petit paradoxe, c'est que quand on observe d'autres nuages moléculaires comme ça dans la galaxie, on ne détecte pas l'oxygène dans ces quantités-là.
Olivier Mouzi.
Il va falloir expliquer comment il s'est formé.
Et donc il faut revoir toutes les théories de formation des planètes, Olivier Mouzi.
Écoutez, par exemple aujourd'hui, des calculs préliminaires montrent qu'il est très difficile de piéger l'oxygène dans la glace dans les conditions de la nébuleuse primitive, le fameux nuage dont parlait Philippe. Donc du coup aujourd'hui on ne sait pas comment l'oxygène est arrivé à la comète. C'est une question qui complètement, on ne peut pas y répondre actuellement. Et l'autre question aussi l'autre problème que l'on a, c'est on ne sait pas comment stabiliser un oxygène dans de la glace d'eau, dans la glace cristalline. Et ça, personne ne sait le faire aujourd'hui. Donc, la comète, ce qu'on vient de voir là, c'est un laboratoire naturel qui est extraordinaire parce qu'on comprend pas tout. C'est clair.
Alors justement, qu'est-ce que vous allez utiliser comme instrument, Philippe Godon, pour essayer d'en savoir un petit peu plus au sujet de cet oxygène? Là, vous avez des appareils à votre disposition, quand même.
Je pense que ce ne sera pas grâce maintenant à Rosetta, mais plus au laboratoire au sol. Mm-hmm. Il va falloir qu'ils étudient dans les conditions de très basse température dans lesquelles se forment les nuages moléculaires, comment de l'oxygène atomique peuvent s'y retrouver dans ces quantités-là. Il y a pour des années maintenant d'études pour arriver à comprendre la composition mesurée de Churyumov-Gerasimenko. Sinon, peut-être que si on arrive à faire refonctionner Philae au niveau du sol, l'instrument Ptolémée pourra nous fournir d'autres éléments, d'autres mesures, mais normalement qui devraient être cohérentes avec celles obtenues par Rosina dans les mois qui ont précédé.
Olivier Mouzi, dans le passé, les scientifiques avaient déjà reniflé une comète, c'était Halley en 1986, ils n'avaient pas trouvé d'oxygène. Churi est différente des autres comètes?
Alors, il y a eu surtout une évolution de la technologie, donc le spectromètre de masse qui est embarqué sur la mission, dont le nom est Rosina, a une sensibilité, une résolution beaucoup plus élevée que ce qu'il y avait dans les années 80. Bien que ce fût de la même équipe qui ait assemblé l'instrument qui a volé sur Giotto, il y avait aussi un spectromètre de masse. Il n'avait pas le pouvoir de résolution, un pouvoir de résolution suffisamment élevé pour observer cette molécule. Néanmoins, des discussions en interne avec l'équipe Rosina nous montrent, enfin, on a discuté pas mal avec les anciens PI de l'instrument de Giotto, et on a suspicion de l'apparition d'oxygène dans Halley également. Il y a des raies qui sont coincées autour de cette même masse molaire. Le problème, c'est que voilà, on peut pas le montrer par A plus B, mais en tout cas, les spectres de Giotto ne sont pas incompatibles. Donc, il aurait pu y avoir d'oxygène dans Halley.
Voilà, donc publication Nature hier, qui est reprise d'ailleurs un peu partout. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres publications importantes, Olivier Mouzi, autour de Churi, là, dans les semaines qui viennent?
Dans les semaines, dans les mois qui viennent, probablement, mais personne ne le sait.
La jolie langue de bois, en tout cas, car vous savez. Mais évidemment, pour l'instant, ça n'est pas publié et on ne peut rien dire. Mais il y a de belles surprises à venir et on s'en fera l'écho, évidemment, dans la tête au carré. Merci beaucoup à tous les deux pour vos Merci. Informations. Axel, on réécoute bien sûr cette une, hein, comme tous les jours.
Avec le podcast de l'émission sur franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Toutankhamon était-il un pharaon infirme et malade? De nouvelles analyses faites en 3D de sa momie dans le cadre d'un documentaire pour la BBC révèle un monarque souffrant, atteint d'ostéonécrose précoce, handicapé par une fracture du genou mal soignée et d'un pied beau. De nouvelles données s'ajoutent à celles déjà connues, avec un paludisme contracté très tôt, des déficiences génétiques héritées de la consanguinité de ses parents. Sa mort à l'âge de 20 ans, selon la légende, dans une course de chars, serait due, selon les spécialistes, à l'état de faiblesse générale de son corps, ce qui peut se comprendre. Les voitures autonomes seront-elles programmées pour vous tuer? Imaginez cette scène, vous roulez à vive allure, un groupe de piétons se trouve sur la chaussée, pas le temps de freiner, alors soit vous déviez de votre route, mais vous foncez dans le ravin au péril de votre vie, soit vous allez tout droit et vous allez certainement percuter des piétons. Comment seront programmées donc les voitures intelligentes pour ce genre de situation? Cette importante expérience éthique vient d'être posée par le chercheur français Jean-François Bonnefond dans un article paru avant-hier. 75% des participants au sondage choisissent de sacrifier le conducteur de la voiture. Une étude originale qui montre que les questions éthiques autour des futures voitures autonomes sont encore nombreuses et complexes. Et puis puis pour finir, une mauvaise nouvelle, préparez vos doudounes car l'hiver sera rude selon les prévisions des ours du zoo de Thoiry. Selon eux, les préparatifs pour l'hibernation ont déjà commencé de manière très précoce. Ils mangent moins, creusent des tanières bien plus profondes que l'an dernier. Seulement une partie d'entre eux avait hiberné en 2014 et l'hiver fut très doux. Les prévisions des ours sont bonnes et depuis plusieurs années, signale le personnel du zoo des Yvelines qui prend ces signes très au sérieux. Vous voilà donc prévenus.